Direct en jeu, la radio insolite. On aime bien accueillir des gens qui font des belles choses dans nos belles régions françaises. Et je suis avec Stéphane. Stéphane est le directeur, le président du Festival Les Suds.
Comment est-ce qu'il fait ? Bonjour. Je suis le directeur.
D'accord. Les Suds, c'est à Arles. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, Les Suds, c'est un festival de musique du monde qui se déroule chaque semaine autour du 14 juillet depuis 25 ans dans cette belle ville, dans les lieux patrimoniaux de cette belle ville, même je dirais, puisque on a la chance de bénéficier d'un patrimoine antique, d'un patrimoine roman et d'un patrimoine industriel qu'on essaie de valoriser par des concerts, par des stages, par des rencontres, etc., etc.
Alors, qu'est-ce qui a donné l'idée à l'origine de créer un festival ? C'est vrai, quand on pense à Arles, on pense à tout ce qui est flamenco, tout ce qui est musique un peu colorée du Sud.
Oui, tout à fait. Alors, c'est Marie-Josée Justamont qui est actuellement la présidente du festival, qui l'a créé en 96 avec cette volonté de faire résonner toute la ville dans cette dimension méditerranéenne. Donc, en valorisant toutes les composantes hein, de cette ville qui a été traversée par de multiples courants migratoires et qui a su développer et conserver cet art de vivre méditerranéen qui est si particulier avec et c'est ainsi que sur le festival on va retrouver des temps forts que sont l'apéro, que sont la sieste, mais on a aussi les moments précieux. Toujours avec cette volonté d'ouverture sur le monde.
J'ai bien entendu qu'on vient au festival pour faire une sieste, c'est bien ça ?
Il y a ça, effectivement.
C'est bien.
Après l'apéro.
Ah oui, pardon, attention, il y a l'apéro, c'est vrai, il ne faut pas oublier l'apéro. Si on devait résumer en 24 ans l'évolution qu'il a eue ?
C'est une question intéressante parce que finalement le festival est resté très fidèle à des fondamentaux qui ont été posés très tôt. Ces fondamentaux, c'est à la fois une recherche de l'excellence, le mot est un peu malheureux, mais en tout cas une réelle exigence artistique qui est couplée à un sens de la fête qui ne s'est jamais démenti. Et après, la forme a évolué parce que les musiques ont évolué, parce que ces musiques du monde que l'on proposait il y a 25 ans, elles étaient incarnées par des Ralette, par des Césaria Évora, etc. Et évidemment qu'elles ont suivi l'évolution de tous les courants musicaux et que maintenant on a des choses qui sont aussi plus électroniques, qui sont plus rock, plus qui s'inscrivent dans une urbanité, je dirais, qui a évolué, mais on reste évidemment toujours attentif aux formes les plus traditionnelles. Parce qu'il y a des choses magnifiques qui se transmettent encore et qui se créent encore dans ces domaines-là, y compris dans nos régions d'ailleurs. Mmh. Et donc, on essaye, si vous voulez, de suivre et d'anticiper et d'accompagner les évolutions des différents courants artistiques que l'on s'est donné comme mission de promouvoir.
Et est-ce que le festival se déroule dans un lieu ou il est disséminé un peu partout dans toute la ville ?
Non, c'est l'une des particularités du festival, c'est vraiment d'occuper une douzaine de lieux dans toute la ville, ce qui fait que le public a entre chaque moment l'occasion de déambuler dans les rues ombragées d'Arles.
D'accord. Et puis logiquement, alors le festival est censé être au mois de juillet.
Eh oui, il était censé.
Oui, mais il a lieu aussi en hiver.
Ah. Alors oui, tout à fait. Le Festival des Suds existe l'hiver depuis maintenant 3 ans. On va préparer la quatrième édition, puisque, si vous voulez, depuis la deuxième année, depuis 1997, on avait lancé ce qu'on appelle le Revivre. Le Revivre du Festival, c'était l'occasion pour nous d'accueillir tous les bénévoles. Ce qu'il faut voir, c'est que le festival, il accueille désormais quasiment 200 bénévoles et il fonctionne grâce à ces 200 bénévoles. Hein. Mmh. Et l'idée était, dès le début, de remercier ces bénévoles en leur offrant un repas et un concert auquel ils n'avaient pas pu assister du fait de leur implication dans l'organisation du festival. Donc ça s'appelait le Revivre. On l'a maintenu pendant de longues années. Il a eu plusieurs formes. Et puis, petit à petit, l'envie est venue d'étoffer et de mettre autour de ce Revivre une diffusion de spectacles un peu plus dense, de densifier la proposition de spectacles, et puis de profiter aussi de ce moment de l'hiver pour rendre visible tout ce que l'on fait à l'année, dans les écoles notamment, mais aussi dans les quartiers, etc. Puisque ces actions sont plus difficilement montrables en juillet alors que les écoles sont fermées. Donc voilà, on a inventé les Suds en hiver. qui se déroule au cœur de l'hiver pour un public au départ que l'on pensait beaucoup plus local et qui finalement s'élargit un petit peu. Mais c'est un vrai plaisir parce que ça nous donne l'occasion de revisiter pour le coup des lieux patrimoniaux fermés, à l'inverse de ceux de l'été qui sont tous ouverts. Voilà, on va dans des petites chapelles, on va dans le château de Tarascon, on va jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence, au musée Estrines, voilà, et au passager du Zinc à Château-Renard. Donc on irrigue vraiment l'ensemble du territoire du Pays d'Arles dans des lieux qui sont assez remarquables.
Alors moi, il y a un truc, quand j'étais venu, tout de suite, j'avais rejoint un endroit assez emblématique, assez extraordinaire. Ce sont des jeunes de 11 à 19 ans qui font de la radio. Et il y a une radio, oui. La radio des Suds.
Et ça, ça fait partie effectivement des actions culturelles que l'on mène. Alors là, la radio, on devait fêter la 20e année, je crois, cette année. C'est un projet qui est né avec Antoine Chao. Antoine Chao, qu'on avait accueilli sur le festival en tant que DJ. À l'époque, on avait programmé P18, qui était l'une des émanations de la Mano Negra. Donc Manu Chao était parti de son côté. D'autres musiciens de la Mano avaient créé un groupe qui s'appelait P18. Et Manu Chao était venu à cette occasion. Il avait assuré un mix DJ. Il avait proposé à Marie-Josée, justement, la directrice et la fondatrice, eh bien de monter une radio éphémère comme il le faisait à Uzès. Et sur le festival de Luba. Eh bien, on a dit banco, on y va. Ça répondait complètement à une demande qui nous avait été formulée par les détenus de la maison centrale, où on faisait on menait déjà des actions et qui nous renvoyaient en gros, bah c'est super votre festival, mais on peut pas y aller, forcément. Donc comment faire ? Eh bien, on a décidé de pouvoir faire rentrer le festival grâce à la radio dans la maison centrale. Et ça a donné quelques années qui était extraordinaire, extraordinairement forte, avec des mobilisations de l'équipe de la maison centrale et des détenus pour participer à leur manière à ce festival. Voilà. Ensuite, la maison centrale a été inondée, enfin tout Arles a été inondé plutôt. Donc on a dû réorienter le projet, on l'a réorienté en nous adressant à des jeunes arlésiens, à qui on confie bien un micro, une console, et ils sont drivés par une équipe de professionnels, dont Antoine Chao toujours, pour monter bien une semaine de programme d'interviews, de reportages, de diffusion, de captation, et voilà. Et c'est vraiment c'est devenu l'un des piliers du festival parce que c'est une équipe qui est très attachante, c'est une équipe qui met plein de sens dans ce qu'elle fait. Voilà, et ça fédère chaque année une vingtaine de jeunes qui ont envie quasiment systématiquement de revenir l'année suivante. Voilà.
D'accord. Avant de parler malheureusement de l'annulation de l'édition 2020, est-ce que vous considérez comment dire que le festival c'est aussi un endroit, un message ? Moi en particulier, j'étais venu écouter le discours d'Edwy Plenel lors de la rencontre qui avait eu lieu pour la 23e édition. Le thème c'était le droit de savoir et la liberté de dire. Est-ce que le festival va plus loin que de faire simplement des spectacles ou de la culture ?
C'est sûr. C'est évident. On a même eu pris pour habitude ces derniers temps de présenter ces musiques du monde qu'on a toujours un peu de mal à définir parce que finalement, les musiques du monde, c'est quelque chose qui est extrêmement. Bon, dans l'appellation, c'est quelque chose qui est un peu connoté, qui est un peu même, je dirais, attaché à une certaine période où la FNAC avait besoin d'un titre pour les bacs, pour mettre dans des bacs les disques qui n'entraient dans aucune autre catégorie. Mais bon, après, elle pratique malgré tout parce qu'on arrive à les définir généralement comme étant les musiques d'inspiration patrimoniale, d'ici et d'ailleurs, donc les musiques qui puisent leur inspiration dans un patrimoine. Mais on peut également les définir comme ces musiques de la géopolitique, finalement. Et il est évident que programmer comme ça a été le cas encore l'an dernier, un artiste du Yémen alors que le Yémen est en guerre, un artiste de Palestine, un artiste d'Algérie alors que l'Irak battait son plein, eh bien, de fait, si ce n'est un engagement, en tout cas, on envoie un signal et un message que l'on espère fort pour dire, eh bien oui, la diversité du monde, c'est celle-ci. Il y a une part d'universel dans chacun de ces particularismes, dans chacune de ces singularités, et dans tous ces pays que l'on connaît parfois que l'on connaît parfois pour les guerres qui se déroulent, pour les drames qui se déroulent, il se passe également beaucoup de choses belles, beaucoup de choses magnifiques. Et ces artistes ont besoin de nous, ont besoin d'être entendus. Leur création tout autant le droit de cité que certaines autres productions. Voilà, donc c'est effectivement un réel engagement que l'on a pour cette diversité culturelle, pour ce message aussi qu'on espère de paix dans un monde qui souvent nous renvoie malheureusement d'autres images.
D'accord. Il faut combien de temps pour préparer un festival concrètement? Il faut un an? À peine vous avez fini, vous recommencez déjà pour l'édition suivante?
Oui, c'est un processus assez continu en fait, hein, parce qu'on est toujours aux aguets, on est toujours impliqué dans beaucoup de, alors je dirais de réseaux, c'est un peu tarte à la crème, mais d'une certaine manière c'est quand même ça, parce que on est alimenté en permanence par les propositions artistiques, on est toujours et sollicité et en demande, on est autant sollicité que l'on est en demande, donc oui, c'est au niveau de la programmation, c'est quelque chose qui est continu, c'est une tâche de fond, je dirais. Ensuite oui, ça dure à peu près un an pour réunir les fonds nécessaires, déterminer le cadre et produire la date. Hein. C'est un festival comme le nôtre. Alors, on est cinq permanents. On embauche une cinquantaine de techniciens intermittents sur le temps du festival. Et puis, on a, comme je le disais tout à l'heure, quasiment 200 bénévoles. C'est une grosse machine. Il faut des gens qui soient capables d'organiser des voyages. Il faut des gens qui soient capables d'organiser les hébergements, d'organiser les concerts, en sachant que bien là, tout est lié. Donc derrière, il faut également tout fluidifier, tout penser à tout. Il faut penser à tout. Parce que tout ce qu'on n'aura pas anticipé, on va le payer puissance 10 pendant le festival. Et en sachant qu'il y aura toujours des imprévus pendant le festival.
Ah ben
Mais donc,
c'est ce qui fait la magie aussi de l'événement.
exactement, exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à anticiper un maximum de choses de manière à être libéré pendant le festival pour pouvoir faire face aux imprévus, en sachant que dans les imprévus, il y a des choses évidemment magnifiques qui se déroulent.
2020 était programmé du 11 au 18 juillet. C'est qu'à peu près 50 000 festivaliers, 60 concerts. C'est de 10h à 4h du matin. C'est la mort dans l'âme que vous avez dû reporter. Alors, vous n'avez pas annulé, vous avez quasiment reporté. Ça, c'est important, à juin
Alors,
2021.
oui, c'est-à-dire que la notion entre report et annulation, elle peut paraître un peu cosmétique, mais en fait, comment dire, la 25e n'a pas eu lieu en 2020, donc elle aura lieu en 2021. Voilà, tout simplement. C'est la première chose. Donc, on a reporté la 25e édition. Et l'autre chose, c'est que puisque c'était une édition anniversaire, on avait invité des artistes qui ont marqué les précédentes éditions, notamment, je pense à Goran Bregovic. Je pense à Pierre Sfaccini, je pense à Oumou Sangaré, voilà, des artistes qui ont vraiment, Flavia Coelho également, des artistes qui nous ont soit marqués par leur présence lors des précédentes éditions, soit qui nous proposaient là des spectacles d'une forme inédite et qu'on a eu envie de reporter, d'accueillir à nouveau sur justement ce qui sera la 25e, donc en 2021. Et c'est la mort dans l'âme, oui, c'est la mort dans l'âme, disons que. Comme on le disait tout à l'heure, l'une des particularités du festival, c'est celle d'avoir de multiples lieux. Donc, à l'inverse de certains de nos collègues qui sont monocytes, c'est-à-dire qui occupent un seul espace, eh bien, on est, nous, dans un théâtre antique qui contient 2500 places, dans une cour de l'archevêché qui en contient 400, dans une friche industrielle qui en contient 2000, et dans l'espace Van Gogh qui en contient 100, etc., etc. Donc on s'est accroché jusqu'au bout à l'idée que en renonçant aux grosses scènes, on pourrait organiser le festival malgré tout. Après ça, on s'est dit que en renonçant aux artistes internationaux qui n'auraient pas le droit de pénétrer, et là on pourrait malgré tout faire quelque chose. On a dû ensuite renoncer au public qui venait de loin, parce que les frontières fermées, parce que les Français encouragés à rester chez eux cet été. Voilà. Et puis, quand on a dû renoncer à l'esprit de convivialité, on s'est quand même dit, là, ça ne nous ressemble plus. Ça ne nous ressemble plus. Donc, organiser un concert dans ces conditions n'a pas de sens par rapport au message qu'on veut envoyer, au message de partage et de générosité qu'on veut envoyer. Donc reportons, arrêtons la machine sud, qui est une machine lourde, évidemment, avant de la mettre en surchauffe et avant de la mettre en péril, pour envisager peut-être plus tard, dans l'été, dans la saison, des formes plus légères qu'on pourra décider de monter au dernier moment en fonction des informations qu'on aura et des autorisations qu'on aura.
Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver les Sud à Arles? site internet, page Facebook.
Le plus simple, oui. Le plus simple, c'est d'aller sur la page internet hein, du site www.sud au pluriel, donc suds-arles.com. Voilà. Et à noter que pendant toute cette période, on a mis en ligne, on a créé des vidéos, oui. des vidéos qui mettent en scène des artistes du festival sur les dernières éditions. En fait, c'est quelque chose qu'on avait initié il y a quelques années déjà, et on attendait la bonne occasion pour le sortir. Bah, le confinement nous a donné cette occasion, et donc on a mis en ligne les suites tout court qui mettent en scène un artiste invité sur le festival dans un lieu de ce patrimoine arlésien aussi riche. Voilà. Ouais. Donc,
c'est important ce que vous dites. C'est pour ça aussi que moi je différencie le report et l'annulation. Parce que le report, ça veut dire qu'il y a un travail sur l'année prochaine, donc ça n'est pas fini. Mais par contre, le festival continue à vivre. Et je pense que du 11 au 18 juillet, vous allez aussi quelque part parler de ce qui s'est passé dans les années passées. Moi, je voulais vous remercier pour le temps que vous avez pris, pour les explications très simples. Au fait, les derniers points, quel temps il fait à Arles aujourd'hui ?
C'est magnifique, avec un peu de mistral.
Et juste une dernière chose, est-ce que vous êtes à 100 km de la mer, vous ?
Non, je suis à moins de 100 km.
Ah, donc vous pouvez y aller.
On peut y aller, exactement.
Arles, pas juste.
Arles, c'est la plus grande commune de France en surface et elle s'étend jusqu'à la mer.
D'accord.
Donc, on va aller à la mer même sans quitter Arles, en fait.
Merci, c'est gentil. Bonne journée à vous, en tout cas, puis
bonne
merci.
Journée.